Deuxième nourriture du prophète, le miel. Alors l'abeille est le plus petit des animaux qui volent, d'après l'Ecclésiastique, et son fruit est la chose du monde la plus douce. Le miel, c'est vraiment ce qui est agréable. Donc ça désigne à la fois quelque chose d'agréable dans le monde sensible, et à la fois, en général, quelque chose d'agréable au niveau surnaturel, c'est-à-dire... pas uniquement je passe un bon moment avec mon ami et on fait un jeu de société et on s'amuse bien, mais c'est aussi Seigneur, merci parce que cette amitié nous enrichit mutuellement. Vous voyez, il y a toujours cette joie concrète et la joie qui a aussi un déploiement surnaturel. Le miel, c'est ça. Le miel, c'est la nourriture des grands, hein, puisque le Messie tant attendu, dans Isaïe 7, voici que la Vierge est enceinte, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, et de crème et de miel il se nourrira. De crème et de miel, c'est-à-dire à la fois des plaisirs simples, on peut aussi penser à l'humilité et la discrétion, parce que la crème, c'est ce qui n'apparaît pas dans le lait au premier abord, la crème s'est mélangée avec le lait et on ne la voit pas tout de suite, donc c'est un peu comme l'humilité, et le miel, c'est un peu comme, on peut penser aussi, enfin pas seulement à la joie, mais aussi à quelque chose de discret, à la fois qui rend joyeux et à la fois c'est une joie discrète en fait, parce que le miel on ne le voit pas immédiatement en fait, il faut trouver un endroit où il y a un essaim, vous voyez, c'est pas quelque chose comme un pommier où on voit le pommier au milieu du champ et puis il y a les pommes dedans, le miel c'est caché, c'est au creux des rochers, donc on peut penser à la discrétion avec le miel, et c'est le miel sauvage, donc ça veut dire le Seigneur va susciter des endroits où trouver ce miel sauvage pour nous, c'est-à-dire qu'on va dépendre une fois de plus de la grâce. Le prophète va, en étant itinérant dans le désert, en s'aventurant sur des chemins où il n'osait pas trop aller, mais parce qu'il va faire confiance au Seigneur, le Seigneur va lui révéler des endroits où il y a du miel. Alors, où est-ce qu'on en trouve ? Parce que quand même, le prophète, c'est pas uniquement au petit bonheur à la chance, il y a des endroits où on en trouve, parce qu'on sait que si on s'aventure dans tel endroit, alors on en trouve dans la terre promise, c'est le pays ruisselant de lait et de miel, c'est dit 22 fois dans la Bible. Donc c'est-à-dire, la terre promise, ça va être quoi ? Ça va être un endroit où on arrive, la terre promise, donc ça va être le paradis, par exemple. Ça va être, on a prié pendant des mois pour trouver une maison et enfin on emménage dans notre maison. Ça va être les vacances. Vous voyez, en fait, chaque chose peut être une terre promise quand c'était quelque chose qui était l'objet d'une attente. Le miel, dans ce cas-là, ça désigne une nourriture de choix, un symbole d'abondance et d'une économie de type pastoral. Et ça, c'est important. C'est que quand on pense au miel, ça veut dire on rejoint encore ce métier du prophète où c'est un métier où il y a une contemplation, vous voyez. Et donc la terre promise, normalement, le Seigneur nous donne une maison. Et ben c'est pour qu'on puisse prendre les temps suffisants pour prier dans cette maison, quoi. C'est pas pour qu'on fasse plein d'activités et qu'on oublie le Seigneur. Le Seigneur va nous donner un conjoint, et ça c'est une terre promise. Eh ben, c'est pas pour que on arrête de penser à Dieu parce qu'on est avec l'autre et on est heureux et comme on a moins cette question est-ce que je suis aimé, eh ben on va arrêter de prier quoi. Vous voyez, le pays où ruisselle le lait et le miel, normalement c'est aussi un pays où le Seigneur nous dit bah je te fais rentrer dans ce pays, mais eh ben fais un métier adapté, enfin ou aie des activités adaptées à ce pays que je te donne, vu que si tu t'occupes des brebis, eh ben, tu vas trouver du miel sauvage. Tu n'auras pas besoin de te construire des énormes ruches et de te faire des nœuds au cerveau, alors que le Seigneur, il te donne tout, quoi. Alors, on suce le miel dans le creux des pierres, c'est dans le Deutéronome. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les pierres, on trouve le miel. Les pierres, dans la Bible, c'est le symbole des choses sûres. Les pierres, donc, ça va être quoi ? Ça va être dans l'Église, dans les personnes qui ont une sainteté de vie, dans la parole de Dieu, dans les choses fiables, dans les choses justes. En fait, le miel se trouve partout. Le Seigneur, partout, il va mettre du miel. Et le prophète va être celui qui arrive à voir très vite où est le miel, parce qu'il va comprendre très vite, tiens, ça c'est quelque chose de sûr, et ça c'est des sables mouvants, je vais pas trop m'aventurer, c'est de la boue, comme le chameau, je vais contourner cette zone qui n'est pas sûre. Le miel, on en recueille dans ce qui est amer. Donc là, on retrouve Samson qui raconte une petite histoire parce qu'il a vu une carcasse de lion où il y a eu du miel dedans, vous voyez. Donc l'amertume, c'est le petit effort qu'on offre au Seigneur. Hein, et de manière absolue, c'est la croix du Christ. Voilà. Et de son sein jaillissent des fleuves d'eau vive. Et on peut se dire finalement que c'est comme si le Seigneur nous donnait du miel dans cette croix, parce que la croix, elle va adoucir tout le reste, quoi. Elle va enlever le péché. Cette amertume, cette souffrance qu'il aura subie va procurer du miel à tous ceux qui seront autour de lui, quoi. Voilà, moi, je souffre pour les autres. Et ben, les gens, je vais leur donner du miel, des consolations sans le savoir. Voilà. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée a du miel pour son bien-aimé. Donc ça, c'est pour les dames. Les dames ont une capacité à adoucir la vie de leur mari. Et les deux fois où le miel est mentionné dans le cantique, c'est la femme qui donne à l'homme. Et c'est lié notamment au corps de la femme et à l'intériorité de la femme. La femme a des trésors qui sont comme du miel pour l'homme, en fait. Voilà. La manne est blanche avec un goût de beignet au miel. Ça, c'est dans le livre de l'Exode. Donc la manne, ça désigne, on a dit, la parole de Dieu, ça désigne la sagesse, ça désigne l'Eucharistie, ça désigne les sacrements. Donc en fait, dans tout ce qui est saint que le Seigneur nous donne, ben, il y a un goût de miel. Et on retrouve un petit peu ce qu'on a dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, c'est quand le prophète mange le petit livre ou le rouleau, et dans un premier temps, ça a goût de miel. Je médite la parole de Dieu, ou je comprends quelque chose, une chose que le Seigneur me dit, et le premier mouvement, ça va être « Seigneur, comme c'est doux dans mon palais, dans mon intelligence, comme c'est réjouissant de savoir ça, etc. Et » Et le deuxième mouvement, ça va être une amertume. Dans les deux passages, il y a une amertume qu'on mentionne après. « Ça remplit mes entrailles d'amertume », dit l'Apocalypse. Et dans Ézéchiel, c'est quelques versets plus loin. On oublie ces versets qui suivent, parce qu'on s'arrête avant, on se dit, il n'y a que la douceur du miel dans Ézéchiel, mais en fait, on parle bien d'une épreuve juste après. C'est le fait que ça nous met face à nos contradictions, que on se dit, est-ce que je vais réussir à parler de ces choses que tu m'as révélées, Seigneur? Est-ce que, finalement, je me sens pas en décalage par rapport à ce que tu as daigné me montrer, aux grâces que tu m'as données? Voilà, ça c'est l'amertume de se sentir petit, de se sentir pécheur devant ce miel que le Seigneur nous a donné. Puis dans le psaume 19, on a « Les décisions du Seigneur sont plus savoureuses que le miel ». Voilà, donc on retrouve la sagesse, les décrets du Seigneur, tout ce que le Seigneur nous donne. Tout ce qui vient du Seigneur, en fait, c'est du miel. Le miel, il est dit dans le Lévitique qu'on ne doit pas le brûler comme offrande, ni le levain. Par contre, qu'on l'apporte au prêtre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le Seigneur nous donne comme grâce... C'est pas ça les sacrifices qu'on offre, en fait. C'est grâce que le Seigneur nous donne, on l'apporte au prêtre. C'est-à-dire qu'on va on va finalement s'en servir pour consoler les autres, en fait. Le Seigneur nous donne ça pour qu'on répande cette douceur pour les autres. Il est dit dans Isaïe, sa parole me réveille chaque matin pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Voilà. Les grâces que le Seigneur me donne, ces grâces-là, c'est en réalité c'est des charismes, c'est le manteau de poils qui est pour les autres, quoi. Voilà, parce que moi aussi je vais perdre mes poils comme le chameau, et après on va pouvoir filer, tisser les poils pour en faire une laine qui va recouvrir d'autres personnes qui vont elles aussi rencontrer le Seigneur. Donc ça symbolise aussi ne pas rechercher le plaisir ou les joies surnaturelles quand on offre quelque chose à Dieu. Voilà, je vais faire un petit sacrifice, je vais passer dans la chapelle d'adoration. C'est pas pour recevoir des joies surnaturelles, c'est d'abord pour une rencontre en cœur à cœur. Si le Seigneur me donne du miel, tant mieux, mais je n'ai pas à mélanger du miel à mon sacrifice, quoi. C'est pas une bonne chose de dire je vais faire ça comme ça, je vais recevoir ça, etc. Alors, on peut se dire dans la foi, le Seigneur va évidemment me consoler parce qu'il me console à chaque temps de prière que je prends. Le Seigneur, il donne comme bon lui semble en fonction de nos besoins du moment, quoi. Alors, quelle limite pour le miel? Dans les proverbes, il est dit ne pas manger trop de miel, ne pas focaliser ses recherches sur ce qui est agréable, c'est ce que je disais. Il est dit dans les proverbes aussi 27, un gosier rassasié méprise un rayon de miel. On peut faire le parallèle avec ce qu'on vit en Europe aujourd'hui, hein. L'Europe est athée, et curieusement, on est rassasié plus que rassasié de biens matériels. Et beaucoup d'athées disent, mais on n'a pas besoin de Dieu, enfin en fait... Il n'y a que dans les pays où on manque de tout qu'on a besoin de prier Dieu, quoi. Et c'est vrai, en fait, c'est très vrai. Il est dit dans un psaume, Israël, si tu écoutais le Seigneur, il te rassasierait de miel sauvage. Voilà. Donc, à partir du moment où on n'écoute plus, eh ben, on n'est plus en mesure de trouver les lieux où il y a du miel. Donc, ce miel sauvage, qu'est-ce que ça désigne? Ça va être les grâces dans la prière, ça va être aussi des rencontres riches, des personnes qu'on va rencontrer, qui vont avec qui on va construire une amitié, ça va être des lectures que notre ange gardien va nous suggérer, parce que quelqu'un va nous prêter un livre, on va entendre parler de quelque chose, on va entendre une chose à la radio qui va être comme un miel pour nous, et qui va faire écho à une chose dont on a besoin, le Seigneur va nous répondre en nous donnant du miel. À l'inverse, les paroles de la dévergondée, c'est un mauvais miel, en fait, c'est-à-dire que une femme qui utilise son charme uniquement pour la séduction, là on retombe là-dedans, c'est un miel qui va détourner un certain nombre de personnes, c'est dans le livre des Proverbes, il y a tout un chapitre là-dessus. Dans le deuxième livre des Chroniques, il est dit « Les fils d'Israël apportent les prémices en dîme, et pour le miel également. Les fils d'Israël, autant ils ne prient pas pour recevoir des grâces, par exemple, ils ne font pas un sacrifice pour recevoir des grâces, mais dès qu'on commence à recevoir des grâces, eh ben, c'est une bonne chose de dire, ben, cette joie que je ressens, eh ben, je te l'offre au Seigneur, je te la remets. Voilà, c'est une manière de, finalement, que le Seigneur il déverse encore plus de grâce sur nous, qu'il il nous donne une énorme cuillère de miel, alors qu'au départ, il nous avait donné un tout petit filet, comme ça, avec son doigt sur la langue. On a aussi Jonathan, le fils de Saül, qui, dans l'ignorance du jeûne public que son père avait prescrit, son père avait dit, on va faire la guerre et on va tous jeûner, et puis comme ça, le Seigneur va nous donner la victoire. Et puis on part en guerre, avant d'avoir jeûné d'ailleurs. Enfin, on prie pas, on jeûnera pendant la guerre, comme ça le Seigneur, moi j'ai décidé qu'on va faire cette guerre-là, et le Seigneur va nous donner la victoire. Ce qui est une manière un peu, une manière de mettre le Seigneur à l'épreuve, parce que normalement, on prie, on prend le temps, et ensuite, quand le Seigneur confirme qu'il faut bien aller faire la guerre, enfin, on se reprend de quelque chose, c'est ça, aller faire la guerre, eh ben, on l'a fait. Et en fait, Jonathan, lui, il est allé avec une escouade, avec plusieurs personnes, prendre le contrôle d'une citadelle, et en revenant, il ignore que son père a dit « personne ne mangera », il trempe son bâton dans du miel qui coule au sol dans la forêt et ramène à sa bouche, et cela lui éclaircit le regard. C'est-à-dire que le miel va, en réalité, ces consolations que le Seigneur nous donne vont ôter une partie de ce qui nous obscurcit nos sens spirituels, en fait. C'est-à-dire que le miel que le Seigneur nous donne dans la prière, dans les rencontres avec les autres, dans tout ce qu'on arrive à contempler dans ce que le Seigneur nous donne à travers les autres, la prière, etc., ça va nous délivrer de l'aveuglement. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais malheureusement, Jonathan s'attire la persécution de son père. Son père a dit, bah oui, mais moi j'ai dit tout le monde jeûne, donc tu vas mourir, quoi. Et c'est grâce à l'intercession de l'armée qui dit, mais Jonathan a une grande victoire, n'applique pas ce décret au roi, et il est sauvé grâce à ça, vous voyez. Mais une grâce qu'on reçoit va nous attirer des persécutions, ne serait-ce que des esprits qui vont s'attaquer à nous par l'inquiétude, est-ce que c'était vraiment une grâce du Seigneur, etc. Et parce qu'il y en a un qui n'est pas content qu'on ait progressé d'un étage, quoi, voilà, qu'on ait traversé un désert. Tout ça pour dire quoi? Le miel, c'est le prophète qui se nourrit de joie surnaturelle, parce que comme il s'en prend plein la figure, bah, il a besoin de ce miel-là, quoi. C'est ça qui l'aide à progresser, qui l'aide à trouver douce la vie qu'il mène. Voilà, j'ai fini avec la partie sur Saint Matthieu.